Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, cinquième épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Toutes les créatures parlent-elles de Dieu ?» Nous croyons, juifs et chrétiens, que Dieu a fait toutes choses par son verbe. Ce que les païens appellent nature, nous l'appelons création. Et cette création est œuvre de parole. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Précisément cela, que toutes les choses veulent dire quelque chose. Même l'oursin, même l'éponge, même les objets, et tout ce qui est muet. Dès lors, à partir de la Bible, la création semble pouvoir nous apparaître comme un livre, ou plutôt, comme le dit saint Thomas, plus profondément, comme une voix. C'est cette pensée qui semble se trouver à l'origine de l'université, où tout devient digne d'être étudié comme une parole sacrée, et peut-être de toute la science occidentale, même si elle a connu et connaît toujours des errances et des emballements. Mais écoutons Thomas d'Aquin dans deux textes, l'un qui provient de son commentaire des sentences de Pierre Lombard, l'autre de son commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Textes qui tous deux nous engagent à tendre l'oreille vers tout ce qui se donne à voir autour de nous.
La création ne peut pas être dite verbe à proprement parler. Elle est plutôt la voix du verbe. De même, en effet, que la voix manifeste la pensée, de même la création manifeste l'art divin. C'est pourquoi les pères assurent que par son seul verbe, Dieu a dit toute la création. Les créatures sont donc comme des paroles exprimant l'unique verbe divin. C'est pourquoi saint Augustin pouvait dire « omnia clamant » Deus fecit. Mais cela, il ne pouvait le dire que par métaphore. Remarquons-le, l'évangéliste Jean emploie à dessein le mot « était » lorsqu'il dit « le Verbe était dans le monde » pour montrer que, dès le commencement de la création, il avait toujours été dans le monde, causant et conservant toutes choses. Car si Dieu retirait un seul instant des réalités créées sa puissance, elle serait toute réduite au néant et cesserait d'exister. Origène emploie à ce sujet une heureuse comparaison. Il y a, dit-il, le même rapport entre la parole sensible et notre pensée qu'entre toute création et le Verbe divin. Comment notre parole est l'effet du Verbe conçu dans notre esprit, ainsi la création est l'effet du Verbe conçu dans l'Esprit divin. Dieu a dit et tout a été créé, dit le psaume. Ainsi, comme nous voyons notre parole s'arrêter aussitôt que le Verbe fait défaut, de même, si la vertu du Verbe divin était soustraite aux réalités, tout disparaîtrait à l'instant même. Car, comme le dit l'Épître aux Hébreux, Dieu soutient tout par la puissance de son Verbe.
Fabrice Adjadj, il y a le même rapport entre la parole sensible et notre pensée qu'entre toute création et le Verbe divin. Quel est le contexte de ces textes ?
Alors, bien sûr, on a deux textes de provenance différente qui se rapportent à la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut entendre par création et est-ce que on peut dire que les créatures parlent ? Alors, c'est une question qui est très curieuse, hein. Je vais y revenir, je vais dire simplement la source matérielle. Donc on a deux œuvres, on n'a pas encore pris de texte de la somme de théologie. La première, qui est de cette énorme œuvre fleuve qu'on appelle le commentaire des sentences de Pierre Lombard. Pierre Lombard était un théologien qui a écrit un gros livre avec différentes propositions théologiques et c'était... un travail commun de commenter en fait ces sentences. Donc il n'y a pas que Thomas d'Aquin qui a commenté Pierre Lombard, il y en a eu d'autres. Et donc il a fait ce commentaire qui est une œuvre monumentale, mais qui est une œuvre, on pourrait dire, plutôt de jeunesse. Et puis, un autre texte absolument capital de Thomas, et je recommande vraiment la lecture de son grand commentaire sur l'Évangile de Jean, où là, on a un Thomas d'Aquin qui est vraiment le commentateur, pas simplement théologien, et où on voit son lien à l'Écriture sainte et le fait que sa théologie s'enracine, bien sûr, dans cette Écriture et non pas simplement dans une sorte de simple lecture d'Aristote avec des ingrédients théologiques, comme certains ont pu le croire. Thomas d'Aquin est un théologien vraiment au sens de la constitution dogmatique de Vatican II, Dei Verbum, et ce serait une erreur de penser que Thomas n'ait pas été de ces théologiens qui partaient d'abord de l'Écriture. Alors justement, Dei Verbum, le verbe de Dieu, c'est une affirmation ici fondamentale, et justement, je voudrais encore insister sur ce qui tranche d'une certaine façon entre une vision qui serait strictement païenne, où les païens pensent, enfin les Grecs disons, pensent à partir de, les philosophes grecs pensent à partir de la physis, à partir de la nature, et donc plutôt à partir d'un mouvement qui serait organique, végétal, de formation des choses dans une sorte de dynamique, comme on voit la pousse de l'arbre, la pousse de la plante, à une logique qui est celle de la création, où Dieu crée avec sa parole. Ça signifie que la parole, pas une parole humaine bien sûr, la parole divine, mais quand même, parole, se trouve à l'arrière-plan de toute chose. Et ça, c'est une affirmation radicale. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que les choses parlent, bien sûr, mais compris les choses muettes? C'est une remarque qu'on peut faire lorsqu'on dit que l'homme est un animal doué de parole. Ça ne veut pas simplement dire qu'il posséderait la parole dans une forme d'exclusivité. Il est le seul à exercer la parole. Mais en même temps, c'est inclusif, c'est-à-dire qu'à l'être doué de parole, toute chose devient parlante. Et là, à la limite, hein, nul philosophe, je dirais grec, ne contesterait cela. Hein. Cependant, ici, il y a une sorte de raison donnée au fait que les choses nous sont intelligibles, les choses nous parlent. Comment se fait-il même... Ça peut être dans l'expérience de la beauté, hein, chez cette parole des choses chez Augustin, qui est d'ailleurs citée ici, hein, on l'a dit en latin, hein, « Toutes les choses criaient, c'est Dieu qui m'a fait ». C'est à partir de l'expérience de la beauté qu'Augustin le dit. Et la question, c'est comment se fait-il qu'il y ait cette parole qui n'est pas exactement la parole humaine, qui n'est pas exactement notre parole articulée, mais que notre parole articulée est là pour recueillir et qui fait que, par exemple, dans l'expérience de la beauté, le cœur de mon être, c'est quand même un être de parole, un être d'intelligence. Comment se fait-il qu'une pâquerette, qu'un martin pêcheur, que n'importe quel vivant, mais même n'importe quel objet, hein, qui me frappe par son harmonie ou par sa beauté, d'une certaine façon, trouve une connivence avec mon cœur, me parle. Me parle de manière non articulée, obscure, mais je dis c'est parlant. Et là, c'est la grande affirmation chrétienne, Dieu a tout fait dans son Verbe. Ce qui implique justement non seulement une explication de ce phénomène, mais aussi une sorte de mission pour l'homme.
Fabrice Hadjadj, au début de ce texte, on a vu que Thomas d'Aquin parlait de la création comme manifestation de l'art divin, et l'art, on le met plutôt du côté de la causalité efficiente, donc de l'œuvre créatrice de Dieu. Mais est-ce que cette parole de Dieu n'est pas d'une certaine manière cause totale? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir au-delà de l'art divin la parole de Dieu qui s'exprime dans la création?
Oui, bon, le mot art divin, c'est dans certains passages, Thomas d'Aquin dira qu'on peut dire que le Fils, qui est le Verbe, est l'art du Père. Hein, le mot art peut être approprié au Fils parce que Dieu crée dans le Fils, par lui tout a été fait, comme dit hein, le credo. Donc tout a été fait, il y a un faire. Hein, d'ailleurs, le mot créer, même, par exemple en anglais, on emploie simplement le mot faire, hein, bon, dans le credo anglais, donc il est Dieu et maker. Donc c'est vraiment à faire, et il y a une image qui est celle de l'art. Mais il y a une différence, c'est vrai, entre parler d'un art et d'un verbe, d'abord parce que, vous l'avez dit, cause totale, l'artiste agit sur une matière préexistante, et ici, ce serait presque entré dans la vision d'un démiurge qui existait chez Platon, par exemple, où il y avait une matière donnée, et puis Dieu agit dehors, alors que là, le verbe fait tout apparaître. Il n'y a pas la matière et la forme en même temps. Et donc, il soutient toute chose par sa parole. Et c'est d'ailleurs ce qu'on entend par la suite, hein, quand dans le second texte, il est dit « si cette parole de Dieu cessait d'être proférée, les choses retourneraient au néant ». Vous voyez, il faut imaginer un artiste, quand il sculpte une statue, c'est la matière qui l'a fait tenir, la statue. Donc, quand l'artiste se retire, la statue est toujours là. Mais si l'artiste était aussi l'auteur de la matière, il faudrait que la puissance de l'artiste soit toujours là pour maintenir la statue dans l'être. Et c'est précisément ce qui se passe avec cette action du verbe divin. C'est pour ça que la notion d'art, bien sûr, est de toute façon, hein, tous nos mots, on en parlera dans une prochaine émission, justement, sont déficients à exprimer complètement ce dont il s'agit dans le mystère de la création. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est le mot « voix ». Je suis très étonné du fait que Thomas d'Aquin insiste pour dire que c'est la création est comme une voix. Vous avez dit dans votre introduction que d'une certaine manière, l'université, cette idée d'une unité du savoir à travers une diversité de disciplines, c'est ça le sens de l'université, était né quand même dans ce monde occidental où on se dit, puisque Dieu a créé toute chose dans son verbe, alors toute chose a une intelligibilité, toute chose est digne d'être étudiée pour elle-même. Et je pense que l'histoire de l'apparition de l'université, on voit qu'elles apparaissent précisément d'ailleurs autour de cette période de Thomas d'Aquin. Enfin voilà, on sort d'une théologie monastique, va apparaître une théologie universitaire avec ses grandes universités d'ailleurs, de Cologne, où sera Albert le Grand, de la Sorbonne, etc. Et il y a derrière cette idée qu'on peut lire le livre de la création comme on lit les Écritures saintes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Thomas d'Aquin ne prendra pas cette image du livre qu'on va revoir dans des textes très fondateurs de la science moderne, chez Descartes, hein, le livre, grand livre de la nature, chez Galilée, voilà, le livre de la nature, avec cette idée, alors ça c'est une modification qui est écrite en langage mathématique, mais ici c'est plutôt la notion de voix. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire, et quand on passe du livre à la voix.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec notre question aujourd'hui, toutes les créatures nous parlent-elles de Dieu? Alors Fabrice Adjadj, nous avions déjà fait quelques années en arrière une émission sur la voix avec un texte de Jean-Louis Chrétien. Et ici, notre question peut-être s'éloigne de cette question de la voix puisque on nous dit elle nous parle de Dieu. Et pourtant, saint Thomas d'Aquin nous dit bien. Ou est-ce que, pardon, plutôt, je vais le former en question, est-ce qu'il nous dit que les créatures nous parlent de Dieu, ou est-ce qu'il nous dit que dans les créatures, il y a la voix de Dieu? Oui. Est-ce que c'est la même chose?
Bon, de toute façon, il est clair qu'il dit que ça n'est que par métaphore. Donc, c'est pas proprement Dieu qui nous parle, voilà, c'est dans un sens figuré. Que veut dire ce mot métaphore? Et lorsqu'il emploie le mot « voix », bien sûr, encore, c'est par comparaison entre Dieu qui est spirituel et infini, si on peut employer ce terme-là, et de l'autre côté, les créatures qui sont matérielles. Or, justement, l'écart entre le verbe intérieur, l'idée en nous et la voix, il insiste beaucoup sur cet écart en fait entre le spirituel et le matériel. C'est ça qui lui permet d'employer cette métaphore. Mais La grande différence entre la voix et le livre, et c'est là où le choix de la métaphore, vous voyez, parce que est-ce qu'on va dire le livre, comme vont dire plutôt les modernes, ou est-ce qu'on va dire la voix, c'est que la voix est fugitive. La voix, il faut que je sois là, il faut que c'est quelque chose qui passe. Et elle suppose tout d'un coup, dans l'instant, un type de présence. Et parler de voix plutôt que de livre, et surtout de livre écrit en langage mathématique, c'est dire qu'on va se tourner vers les choses, comment dire, dans un rapport beaucoup plus personnel. Alors que lorsqu'on parle du langage mathématique, forcément, ça n'est plus quand c'est un livre, mais c'est un livre qui va contenir quoi, ben des lois mathématiques ou des lois, des équations, etc. Et vous voyez, il y a ce déplacement de la voix au livre est très intéressant. Augustin, lorsqu'il parle de voix, il parle forcément de ce qui nous appelle, parce que le mot voix donne vocation. Et l'expérience de la beauté, selon le terme grec, Thomas d'Aquin le dira, dans son commentaire des noms divins de Denis, beau, ça vient de kalos, et kalos aurait comme origine le verbe kalein, appeler. En grec, il dit, voilà, la beauté, d'une certaine façon, est un appel, où dans quelque chose de fini, nous sommes appelés vers l'infini. Dans quelque chose de périssable, nous sommes appelés vers quelque chose qui semble au-delà de l'éphémérité, on pourrait dire, d'une fleur. Voilà, comment se fait-il que la fleur nous touche et semble nous dire quelque chose qui est au-delà de... Et c'est ça, c'est pour ça que Augustin insiste sur ce lieu-là comme l'appel des choses, ou ces choses qui meurent, qui sont passagères, et il faut voir leur passage, c'est pour ça que c'est une voie, il ne s'agit pas de fixer les choses dans une loi. Et bien dans ce passage, elles sont en train de nous dire, mais regarde, je passe, et en même temps, je te passe ou je te transmets quelque chose qui est au-delà de mon passage. Quoi. D'où ça vient, voilà. Et c'est cette chose-là. Ou alors, on pourrait le dire autrement. N'importe quelle chose est intelligible. Elle se donne à penser, et donc elle est là pour qu'on la parle, pour qu'on la porte dans quelque chose qui devient spirituel, qui devient conceptuel, qui est conçu dans un esprit. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que la chose matérielle se donne à penser, voilà. Quelle est cette donation à penser des choses ? Et là encore, la chose matérielle, elle est matérielle, elle va disparaître. Et en même temps, ce qu'elle nous a donné à penser demeure, voilà. Elle demeure, en tout cas, pour la pensée. Et alors, c'est cette expérience-là, finalement, qui est en jeu.
Fabrice Adjadj, justement, juste pour revenir à ce point de l'intelligibilité de la chose, est-ce que la métaphore du livre n'aurait pas ce problème aussi de présenter le monde comme entièrement connaissable, comme quelque chose qu'on pourrait lire de manière presque transparente et qui nous dirait Dieu d'une façon transparente, alors que la voix nécessite de rechercher le visage de celui qui appelle et qu'il n'est pas évident de retrouver la trace de la voix émise.
Bon, est-ce que le livre, c'est le lieu de la transparence ou au contraire de l'opacité totale ? Parce que c'est vrai que quand les modernes ont insisté sur le grand livre de la nature, leur idée était d'une forme de transparence. Mais en réalité, un livre, un écrit, c'est une parole dont l'auteur est absent, et donc ailleurs, transcendant. Et on pourrait même dire qu'il y a une différence entre la voix et l'écrit, c'est que justement la voix suppose que l'auteur soit présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que Thomas d'Aquin insiste sur la présence de Dieu, alors qu'au contraire, l'idée du livre pourrait nous renvoyer au fait qu'il a laissé cet écrit et Dieu s'est retiré d'une certaine façon, comme l'auteur n'est plus là, en fait, pour qu'on puisse lui poser des questions. Donc ce sont deux métaphores complètement différentes, je pense, mais je ne dirais pas que si on conçoit bien le livre, c'est dans une logique de transparence. En revanche, c'est sûr que les modernes ont cru pouvoir, d'une certaine façon, ressaisir complètement les lois de la nature. Ce qu'il y a dans la voix, surtout, c'est qu'autant un livre de contes peut apparaître comme quelque chose d'impersonnel, la voix, c'est toujours la voix de quelqu'un. Et c'est vrai que tout d'un coup, l'idée que les créatures ont une voix, ça nous renvoie à un autre, à une personne qui parle. Et donc, le fait que derrière toutes les créatures, c'est ça ce que vous disiez, la plus petite chose, il y a le mystère de quelqu'un. Derrière quelque chose, il y a quelqu'un. Et quelle que soit cette chose. Je voudrais ajouter un autre point qui est, à mon avis, très important. C'est que ce texte de saint Thomas d'Aquin permet aussi de penser une expérience très forte chez des grands écrivains. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ce texte de Thomas d'Aquin et des évocations de Marcel Proust à propos de ce qu'est, en fait, toute sa mission d'écrivain et de poète. Il y a un passage très célèbre au tout début de la recherche du temps perdu, enfin à la fin de la première partie sur Combray, autour des fameux clochers de Martainville. Et Proust dit, voilà, il est en train de faire un chemin dans une voiture à cheval, hein, bien sûr, et à cause des lacets de la route, le double clocher de Martainville, mais aussi le clocher aussi d'un autre village à côté, se mettent à bouger, la perspective change, alors un clocher passe derrière l'autre, le clocher qui est lointain de se rapproche, etc. Et donc il est fasciné, il sent qu'il y a quelque chose derrière cette expérience. Et en fait, il dit que voilà, dans la vie de tous les jours, nous ne cessons d'avoir des impressions comme ça, qui sont extrêmement riches, qui semblent chargées de quelque chose, et en même temps, on les laisse passer. On les laisse passer, on les oublie. Et là, il sent qu'il y a quelque chose qui est là, que cette expérience où ces clochers bougent, et puis tout d'un coup, d'ailleurs, il arrive juste devant le porche, sans très bien comprendre comment il est arrivé devant le porche de l'église de Martainville. Et alors, à ce moment-là, il va se passer une expérience étonnante, qui est toute l'expérience de Proust. Sur le chemin de retour, il en garde à nouveau, il y repense. Et puis, il se dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas donné dans l'expérience encore. Et on pourrait penser que tout se joue simplement dans la sensation, dans la présence, dans le présent. Et puis voilà que ça ne lui suffit pas, il lui faut autre chose. Et d'une certaine façon, il va garder en lui la mémoire de ces clochers de Martainville, ça va se décanter en lui, et tout d'un coup, des phrases vont sortir. Et il va écrire un texte que d'ailleurs il dit qu'il retranscrit alors qu'il l'a écrit à l'époque, alors qu'il est tout jeune, qu'il le retranscrit dans la recherche du temps perdu. Et donc ce serait déjà à la fin d'une première partie, un texte qui est en fait au tout début et qui est presque la racine, la matrice de toute l'œuvre proustienne. Et il dit, mais en fait j'étais comme une poule qui, après avoir pondu, aurait eu chanterait parce qu'elle est contente, parce que j'ai réussi à écrire ce texte et en fait à changer cette expérience en une parole. Comme si les choses attendaient d'être dites, comme si les choses attendaient d'être portées dans la parole. Alors, dans le cas de Proust, c'est le cas d'un grand écrivain qui va faire une œuvre à partir de ses expériences. Mais je crois que non seulement nous tous, nous sommes appelés à dire des choses, à les porter aux autres, à les formuler, et c'est rendre témoignage. Oui, rendre témoignage. Les choses même attendent notre témoignage. Dire qu'elles sont toutes créées par le Verbe, ça signifie que les choses même attendent que nous rendions témoignage et que nous les portions à la parole. Alors, ça peut être très simplement, regarde, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà cette chose, regarde cette chose. Chez certaines personnes, ça ne va pas s'exprimer sous une forme poétique, ça ne va pas s'exprimer sous une forme littéraire. Mais toute notre vie est marquée par le fait que les choses attendent que nous les disions. Et même dans un couple, on voit bien l'attente, notamment de la femme, que Marie raconte, alors qu'elle est plutôt taciturne, etc., dit cette journée, le fait qu'on se parle. Derrière le « se parler », c'est pas simplement la question de la confidence, de sortir des états d'âme, mais tout d'un coup, de porter à la parole ce qui est là, qui est passé par une mémoire et qui va être décanté dans la mémoire et après chanté ou dit par une parole. Et c'est ça, toutes les créatures créées dans le Verbe attendent d'une certaine façon notre Verbe et peut-être le Verbe des anges, ultimement, pour être entièrement raconté ou la conversation des bienheureux.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec saint Thomas d'Aquin, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.